De garder une unité de mon propos. Il faut que je me présente, oui. Bon, d'accord. Je suis le frère Luc de Villers, parisien d'origine, mais ayant connu l'ordre à Toulouse en 74, je suis entré en 77, donc ça fait 42 ans de profession, 37 ans d'ordination. Je suis bibliste, j'ai fait des études à l'école biblique, comme certains l'ont entendu ce matin, et puis ensuite j'ai enseigné au séminaire interdiocésain de Bordeaux et au couvent de Bordeaux le Nouveau Testament, le grec, l'hébreu aussi pour certaines personnes, donc des choses bibliques, disons. Et puis en 95, je suis parti à Jérusalem pour faire partie de la maison, être enseignant-chercheur là-bas. Et c'est à cette occasion d'ailleurs que j'ai fait mon doctorat. Je l'ai fait très tard, à 47 ans, parce que personne ne m'avait demandé d'en faire un avant. Puis je vivais très bien sans avoir un doctorat aussi. Donc j'étais à Jérusalem, et quand je suis parti à Jérusalem en 95, maison que je connaissais pour y avoir été de 84 à 86, j'étais persuadé que, comme les anciens, j'y étais jusqu'à la mort, 30 ans, 40 ans peut-être. C'était un rêve extraordinaire. Et puis au bout de 12-13 ans, ça a un peu commencé à peser pour différentes raisons. La situation politique, évidemment, qui est très pénible, mais aussi les situations internes de conception de l'école, de son avenir. Il y avait des questions, et puis des appels de France aussi. Un ami prêtre qui était étudiant à l'école biblique m'a dit un jour: « Bon, ça fait 10 ans que tu es là-bas, tu ne penses pas qu'il est temps de revenir en France, et des choses à faire, etc. » Voilà, ça m'a ouvert les yeux, et bon, j'étais prêt à faire quelque chose d'autre. Et puis les circonstances ont voulu que ce quelque chose d'autre, c'était à Fribourg en Suisse. J'y avais absolument pas pensé avant, hein, du tout. Je voulais absolument pas passer par Fribourg. Et voilà, donc j'ai enseigné donc 11 ans, 11 ans et demi, le Nouveau Testament à Fribourg, et j'ai pris ma retraite, puisque c'est une université d'État, donc avec un âge obligatoire de retraite, ma retraite le 1er août dernier. Et depuis le 1er août, je suis à Boscodon, que je connais depuis 40 ans, hein, abbaye chalaisienne, donc des liens très forts depuis la Renaissance de Chalais et après la Renaissance de Boscodon en 72, très forts entre les deux lieux, avec présence de sœurs moniales, dominicaines, et puis de frères. Actuellement, il n'y avait plus qu'un frère à Boscodon, un frère de 75 ans maintenant, qui a vécu seul ces deux dernières années, entouré de quelques personnes de l'association, mais pas de membres de la communauté. Il était tout seul. Et voilà, donc je suis le deuxième, et j'espère que la province de Toulouse, et peut-être l'ordre en France, va prendre enfin au sérieux le désir de beaucoup de personnes, à commencer par l'actuel évêque de Gap, Mgr Mal, que ça devienne une maison officielle dominicaine, avec donc nomination par un provincial, assignations de frères, etc. Alors, j'espère ça de tous mes voeux. C'est un lieu très touristique pendant l'été, bien sûr. C'est le lac de Serre-Ponçon. C'est donc tous les plaisirs de la montagne, de l'eau, le ski en hiver. Et c'est un lieu magnifique. L'église est superbe. Et la rénovation est aussi très intéressante. Et il y a toutes sortes d'activités culturelles, profanes, je dirais, laïques, mais ouvertes à une dimension spirituelle. Ça convient bien, je pense, à des dominicains d'être là. Voilà, donc je suis très heureux d'être à Boscodon. Mais ça me change un peu de la vie à Fribourg, hein. Ça, c'est sûr, bien sûr. Où j'ai été coucouné dans un couvent où il y avait un cuisinier, comme ici Maxime, très bon cuisinier, il y avait les femmes de ménage. Et ici, là, à Boscodon, la femme de ménage et cuisinier, c'est moi, quoi. Et pour les cours, c'est pareil, etc. C'est un changement de vie. Théoriquement, si j'ai un petit peu de temps, pour l'instant, j'en ai pas beaucoup, je devrais écrire un commentaire de l'Évangile de Jean pour les éditions du Cerf. Et je viens de relire un message de Chantal Régnier, la responsable de la collection, qui me souhaite ma fête aujourd'hui, et qui m'a dit: la semaine prochaine, on a une réunion à Paris, est-ce que tu peux me donner des nouvelles, où tu en es de ton manuscrit? Je vais lui dire qu'il ne faut pas compter à quelque chose pour ce trimestre. C'est un trimestre d'adaptation à un autre style de vie. Mais voilà, j'avais déjà pris les devants, et j'avais dit que ça me paraissait jouable de rendre le manuscrit l'été 2023. Donc on a encore un peu de marge. Mais voilà, il faut quand même le faire, quoi. Voilà, donc je suis là parce qu'un beau jour, j'ai reçu un email, un courriel, comme je préfère dire, un courriel de Sœur Julie. Je la remercie beaucoup de m'avoir invité et à venir à Chalais. J'ai tout de suite dit oui, parce que Chalais, j'aime beaucoup. Et puis les amis de Chalais, les amis de mes amis sont mes amis, donc bienvenue. Deuxième aveu, quand j'ai su que le sujet était plus haut, c'est pas le titre qui est là, je crois que le titre qui est là, c'est moi qui l'ai mis, mais c'était en question d'autorité, de pouvoir, voilà, une sorte de réflexion, on peut dire, sur des concepts un peu philosophiques. Alors là, je me suis pas senti très à l'aise, parce que je suis pas très philosophe, hein. Ou alors je suis philosophe à la manière de M. Jourdain qui fait de la prose, hein, sans le savoir, hein. Mais les concepts, je sais pas de manière, moi j'ai besoin de textes, de documents, des inscriptions en mosaïque ou des parchemins ou des textes comme ceux que je vous donne là. Alors, c'est pourquoi vous avez 4 pages. Je suis désolé si les textes bibliques sont écrits en tout petit, en caractère 10, mais comme vous avez tous chez vous une Bible, vous pourrez comparer avec d'autres typographies. C'est simplement pour mettre en valeur quelques passages. Et les 4 pages que vous avez sont réparties en 3 parties. Marqué par des petites étoiles. Il y a tout d'abord 2 définitions du dictionnaire historique de la langue française dirigé par Alain Rey sur le mot pouvoir et sur le mot autorité. Puis il y a 4 passages bibliques, 2 de l'Ancien Testament qui sont d'une longueur incroyable et 2 autres du Nouveau Testament, Jean et Luc. Et je n'ai pas fait exprès de terminer par Luc, c'est le jour de sa fête, donc par saint patron, donc on termine par saint Luc, un texte très court, mais qui est une sorte de contrepoint au récit de Jean. Et puis, comme il y avait encore un peu de place et que c'était tout frais, je vous ai mis les 2 prières par lesquelles le pape François termine son encyclique, que je n'ai pas encore lu, hein, Fratelli Tutti, une prière large, interreligieuse, on va dire, au Créateur, et puis une prière chrétienne, écuménique, mentionnant la Trinité. Alors, ce n'est pas tout à fait dans la ligne du thème, mais ça, il y a quand même des rapports. Et justement, ce thème de l'autorité, du pouvoir, je vais le traiter à ma façon, comme je viens de le présenter, donc à partir de textes bibliques. Ce que je vais dire n'entrera certainement pas dans le cadre d'une dissertation sur autorité et pouvoir. Ce sont des réflexions, peut-être un peu marginales parfois, mais qui nous montrent que ces questions-là existent depuis toujours, que la Bible en est le témoin. Un témoin très intéressant, très autorisé, parce qu'il montre à la fois une ligne à suivre et puis les déviances ou des personnes qui doivent suivre cette ligne. Et puis la manière dont Dieu agit avec ces gens-là. Alors, je voudrais remonter un peu plus loin et rajouter quelque chose que vous n'avez pas dans le texte, c'est le tout début de la Genèse, pas le premier verset de la Bible, mais dans le premier chapitre, qu'on appelle le récit sacerdotal de la création du monde en 7 jours, vous savez, avec le jour de repos à la fin, quand il est question de la création de l'être humain, Dieu donc dit que cet être humain, au masculin et au féminin, il est créé à son image et ressemblance. C'est la seule créature, le seul être vivant créé à l'image et ressemblance de Dieu, même si tout vient de la main de Dieu. Et ensuite, Dieu s'adresse à l'humanité comme il s'est adressé la veille à une certaine catégorie d'animaux. Donc ce n'est pas la première parole de Dieu, puisque Dieu crée par sa parole, mais c'est la première parole qu'il adresse à l'humanité. Et cette première parole, hein, assortie d'une bénédiction, est traduite habituellement par « croissez et multipliez-vous et emplissez la terre ». Excusez-moi de le dire de manière un peu, peut-être, presque vulgaire, mais on a l'impression que Dieu dit « faites des petits comme les petits lapins, etc. et que ça pullule, et puis voilà, vite, en plus, une sorte d'avancée par la quantité. Voilà, faites des petits. Si c'est ça que Dieu dit comme bénédiction à l'humanité, c'est raté pour tous les couples stériles, c'est raté pour les célibataires qui n'ont pas choisi d'être célibataires, et c'est raté pour les religieux et les religieuses que nous sommes, puisque nous ne sommes pas bénis dans ce cas-là. Alors, il faut peut-être comprendre les choses autrement. Et moi, j'aime traduire cette première parole de Dieu, en prenant au pied de la lettre les mots hébreux, par « portez du fruit, fructifiez, et devenez grand ». Alors, devenez grand, grand. Grand, rab en hébreu, c'est le rabbin, le rabbi, c'est bien sûr, ça peut être le nombre. Hein, et il y a des exemples dans la Bible, hein, le peuple s'agrandit. Même l'Église, dans les Actes des Apôtres, elle s'agrandit, elle augmente en nombre, etc. Mais si c'est que pour augmenter en nombre, sans veiller à la qualité, ça n'a pas un grand intérêt. Ceux qui aiment le vin savent qu'il vaut mieux des petits vignobles où il y a un vin et des raisins de qualité que de la grosse production où on fait une sorte de vinasse qu'on pourra éventuellement mélanger avec de l'eau, mais qui n'est pas, dont on ne gardera pas un souvenir intense. Donc, c'est bien la quantité, bien sûr. Dans la nuit de Pâques et dans le temps pascal, l'Église prie pour ses nombreux enfants qu'elle a reçus par le baptême, etc. Donc, qu'il y ait une dimension de quantité, c'est clair. Mais s'il n'y a que ça, ça ne remplit pas le projet de Dieu sur l'humanité. Le projet de Dieu, c'est porter de fruits et devenez grands. Devenez grands en sagesse, devenez grands en humilité, en sainteté. Et porter du fruit, bien sûr, ça peut être la fécondité physique d'un couple, c'est évident. Mais ce n'est pas que ça. C'est tous les autres types de fécondité, surtout la fécondité spirituelle. Et je suis très frappé de voir que l'évangile de Jean, que j'aime beaucoup, répond d'une certaine façon, de manière chrétienne, à ce propos du début de la Bible, puisque Jésus dit à ses disciples, au chapitre 15, avec l'image de la vigne et des sarments, « C'est la gloire de mon Père que vous portiez du fruit et que vous deveniez mes disciples. » Porter du fruit, nous sommes faits pour porter du fruit et pour devenir grand, si possible, en faisant tâche d'huile, comme dire, donc en transmettant le flambeau de la foi à d'autres, peut-être, oui, mais surtout par nous-mêmes, en nous construisant sous le regard de Dieu. Et voilà, ça c'est un peu différent du thème pour autorité de pouvoir, mais vous comprenez, je pense déjà que ça a comme un certain rapport. Vous allez peut-être le voir encore plus quand on va regarder ces deux définitions du dictionnaire historique de la langue française. Bon, je ne vais pas relire les distributions, vous savez lire aussi bien que moi, et vous prendrez ça calmement chez vous. Là, je n'ai fait que copier, écrire à la main le texte du dictionnaire, hein, en raccourci un peu. Mais, donc, on voit que dès le Moyen-Âge, hein, au XIIe siècle, le mot pouvoir désigne la puissance politique. De ce mot pouvoir, qui a différentes utilisations, je retiens simplement un sens dérivé, mais intéressant, qui concerne toutes les associations de loi 1901, donc la vôtre comme celle des amis de Bostcodon, hein, c'est que quand on ne peut pas venir à l'Assemblée générale, et qu'on doit voter quand même, eh bien on donne son pouvoir à quelqu'un. C'est-à-dire que l'acte même de transmettre sa délégation et le papier sur lequel on fait s'appelle un pouvoir. C'est une manière de dire, j'ai le droit de vote, je m'exprime, j'ai la possibilité, j'ai le pouvoir de voter, et même si je ne suis pas là, je le fais par quelqu'un d'autre qui le fait à ma place. Donc voilà pour le mot pouvoir. Je m'intéresse surtout au mot autorité, qui est donc, vous voyez, un emprunt ancien, comme on dit, auctorité, au latin auctoritas, hein, dérivé de auctor, auctor dont on a fait auteur. Pas l'acteur. L'acteur, c'est celui qui agit, c'est peut-être une autre racine, mais l'auteur. Hein, l'auteur. Et pendant un temps, on a dit au féminin, maintenant, auteur, eux, et maintenant, on réhabilite autrice, puisque ça existait, je crois, au XVIIe et au XVIIIe siècle dans le français. Autrice. Comme on dit directrice et correctrice. Donc, c'est autrice. Donc, auteur. Or, ce que je n'ai pas mis là ce que vous ne trouvez pas dans le texte d'Alain Rey et compagnie, c'est que, j'ai vérifié ça tout à l'heure, j'ai pas pensé au moment où j'ai fait le papier, c'est que cette racine latine qui a donné auctor, auctoritas, est l'équivalente de la racine grecque qui a donné le verbe auxo et auxano, hein, qui veut dire augmenter, faire croître. Et c'est par lui que, dans la version grecque de la Genèse, comme dans les Actes des Apôtres, il est dit que le peuple se multiplie, croît, hein, il augmente, hein, augmente. Mais là aussi, si l'augmentation n'est qu'en nombre, ça n'a pas tellement d'intérêt. Hein. L'important, c'est que chaque élément nouveau soit de qualité. Donc, il faut toujours associer à la dimension de nombre, de quantitative, la dimension qualitative. Et un auteur, donc, c'est au départ un fondateur, l'instigateur, celui qui transmet quelque chose, et celui ensuite qui parle avec une sorte de sagesse intérieure. On dit qu'il y a des gens qui ont une sorte d'autorité naturelle, hein, c'est un peu ça. Donc on comprend bien un pouvoir d'imposer, sinon l'obéissance, comme dit le texte, mais au moins le respect. Et c'est pourquoi, dans le latin d'église, et ensuite dans le français ou l'espagnol d'église, le mot autorité, surtout au pluriel, les autorités, vont désigner entre autres les passages bibliques, hein, que l'on cite pour justifier tel ou tel point de vue. Vous avez bien vu ce matin que les responsables du fisc byzantin savaient manier la Bible pour trouver des autorités, pour inviter les gens à payer leurs impôts. Hein, donc ils ont pris Romain XIII, comme hier soir Saint-Julien a pris Romain XIII à l'office des vigiles. Voilà, donc autorité, c'est ce qui aide à faire grandir, à faire grandir. Et on a ça dans la Bible, c'est le projet de Dieu sur l'humanité. Alors, maintenant, venons-en, et c'est l'essentiel de mon papier et de mon propos ce matin, à ces quatre passages bibliques. Si j'ai mis très longuement les deux premiers, si j'ai donné en très longue version les deux premiers textes, ce n'est pas uniquement parce qu'ils sont peut-être un peu moins connus, c'est l'Ancien Testament que le Nouveau, c'est parce que ce sont des histoires à rebondissement et qu'on lit parfois peut-être rapidement, et il me semble que c'est intéressant d'aller voir dans le détail ce qui se passe. Premier texte, dans le deuxième livre de Samuel, le fameux péché du roi David. Le saint roi David, tout saint qu'il soit, c'est un homme, un être humain, donc il est pécheur. Et la Bible ne cache pas son péché. Mais il me semble que quelquefois, je ne dirais pas qu'on se trompe sur le péché de David, mais on ne va pas assez loin. Je m'explique. David a un premier péché, principal, là, qu'il a l'envie de cette femme, qu'il voit se baigner, etc. Il a envie d'elle, donc il veut commettre l'adultère avec elle. Très bien. Et vous savez que un péché entraîne l'autre, dès qu'on est sur une pente glissante, etc. Après, un petit problème, la femme annonce qu'elle est enceinte. Oui, les moyens de contraception étaient assez limités à l'époque. Il devait y en avoir, mais... Et donc, la femme est enceinte. Et le roi David se sent gêné, parce qu'il a fait ça, bien sûr, en l'absence du mari, parce que le mari est à la guerre, dans l'actuelle Jordanie, etc. Alors, il trouve très malin, le roi, de faire venir en permission spéciale le mari, sous prétexte de prendre des nouvelles de la guerre, etc. Et puis il veut le renvoyer chez lui pour se prendre un peu de repos, et il dit comme ça, c'est lui qui portera le chapeau, plutôt le bébé, etc. Et bien ça ne marche pas comme ça, parce que son officier, Urias, qui est d'origine hittite, donc c'est même pas un israélite d'origine, c'est un mercenaire, lui, il veut pas, il est en campagne, comme ses compagnons qui sont sur le front, et en campagne, on ne va pas chez soi coucher avec sa femme, etc. Donc, ça c'est une règle dans l'Antiquité très importante. Donc, parce qu'il n'y a qu'une dimension sacrée, on peut dire, dans le combat qu'on mène contre les païens. Il n'est pas question de ça. Et le roi est embêté, et du coup, le roi change d'avis, vous savez, et se débrouille pour se débarrasser de ce. Cet homme, il demande au chef de son armée, au général Joab, de tout faire pour le placer à un endroit stratégique pour qu'il puisse prendre une flèche et être tué. Et c'est ce qui arrive. Et on annonce au roi que son brave officier est mort, etc. Alors le roi est très triste, on annonce ça à la veuve, etc. Et puis finalement, dans un grand geste de générosité, le roi adopte comme ça son épouse, cette femme. Voilà. Et du coup, le petit qui naît, c'est très bien, ça. Personne n'y verra que du feu, etc. Sauf que c'est très un peu curieux, la finale est un peu curieuse, elle peut nous choquer, nous, à notre époque, c'est que Dieu pardonne le péché de David, parce que le prophète Nathan lui a fait la leçon et David s'est repenti, mais le petit enfant lui meurt. Bon, il meurt. C'est pas une punition pour l'enfant, évidemment. Au contraire, on peut dire qu'il est dans le royaume de Dieu déjà, etc. Mais ça fait un peu drôle de voir que celui qui doit payer, il ne paye pas, et c'est un autre, un innocent qui paye. Mais ce que je veux revenir sur le début du texte, vous voyez que j'ai mis quelques passages en grande capitale, d'autres en petite capitale, parfois même aussi en caractère gras ou italique. Ce n'est pas hyper régulier, hyper conséquent ce que j'ai fait ça un peu vite ce matin ou hier soir, j'aurais voulu faire ça plus tôt, mais je n'ai pas eu le temps, pas trouvé le temps. Mais au moins, je mets en valeur des phrases sur lesquelles je voudrais m'arrêter. Le tout début du récit, donc, c'est... Regardez, le début était intéressant. Au retour du printemps, à l'époque où les rois se mettent en campagne. C'est-à-dire, l'hiver, comme il fait froid, que c'est joli, etc., personne ne bouge de chez soi, on reste dans sa chaumière ou dans son palais. Mais dès qu'il commence à faire beau, ben, il faut faire la guerre. Voilà. Les rois se mettent en campagne, on fait la guerre. Alors, il envoie une expédition chez les fils d'Amon. Donc, Amon, c'est Amman actuellement, la capitale de la Jordanie. Hein, et ils mettent le siège devant Rabba. Rabba, qui dit la grande. Rabba. Hein, le verbe Rab, le mot Rab. Hein, la grande des Ammonites. Et David, lui, est resté comme roi à Jérusalem. Et puis, de sa terrasse, il aperçoit en contrebas dans la ville basse une femme en train de se baigner, qui était très belle, donc il la désire, hein, et il la fait venir. Parce que on lui apprend qui c'est d'abord, on lui dit que c'est la femme d'Urias le Hittite, qui lui est donc à la guerre, et il connaît cet officier. Alors le verset 4 que j'ai mis en grande majuscule, « Alors David envoya des gens la chercher, elle vint chez lui, il coucha avec elle, alors qu'elle s'était purifiée de ses règles. Bon. » Il coucha avec elle. Habituellement, et je crois il y a quelques semaines, je le pensais encore, on disait « le premier péché de David, c'est un adultère ». Eh bien, c'est plus qu'un adultère. C'est un viol, et un viol par personne ayant autorité sur vous. Ça vous rappelle des choses aujourd'hui, hein, voilà, David ne fait pas ça n'importe comment. Il n'est pas dit que la femme est consentante, que la femme désire le roi, ou qu'elle fait ça. La femme, elle était là, chez elle, etc. Et arrive à sa porte des agents de police ou de l'armée, des militaires, qui la prennent sans lui demander son avis, parce que le roi la veut. Donc c'est un viol par quelqu'un qui a autorité sur vous, pouvoir, et qui abuse de son autorité, pour, y compris par la force militaire qui est à sa solde, hein, pour faire ce qu'il veut, arriver à ses fins. Donc le premier péché, c'est un viol, hein, avec abus d'autorité. C'est important. Puis, dans les versets qui suivent, donc à partir du verset 7, 6 et 7, j'ai mis en petit caractère, en petite capitale, les propos de David qui dit dans un message au chef de son armée, envoie-moi Urias le Hittite, comprendre quel est le motif du roi, hein, c'est d'accorder quelques jours, donc un petit week-end de permission à Urias pour qu'il puisse aller chez sa femme, hein, et puis ensuite, comme ça, on dira, ben, c'est lui qui est le père de l'enfant, très bien, etc. Mais, donc, verset 7, il le voit, verset 8, il voit Urias, il lui dit, « Descends chez toi, prends du repos. » Urias sortit du palais, et l'on portait derrière lui une portion de la table du roi. Donc, le roi le flatte par des cadeaux, etc., tout fait, hein, pour que vraiment il soit très content et qu'il aille prendre du repos chez lui, avec sa femme. Verset 9, « Mais Urias se coucha à l'entrée du palais avec les serviteurs de son maître, il ne descendit pas chez lui. » Alors on apprend ça à David, Urias n'est pas descendu chez lui, alors David le convoque à nouveau, mais il lui dit « Mais quoi, tu n'arrives pas de voyage, tu n'es pas fatigué, pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison ?» Hein, l'insistance pour pousser l'autre à consentir et pouvoir mieux lui faire porter le chapeau. Et Urias répond, la bonne doctrine, hein, l'arche ainsi qu'Israël et Juda sont sous des cabanes, des huttes, hein, donc sous des, hein, nous dirions des tentes, ils campent, ils sont en bivouac. Joab, mon seigneur, et les serviteurs de mon seigneur le roi campent en rase campagne, et moi, j'irai dans ma maison manger, boire et coucher avec ma femme. Pas question. Hein. Par ta vie, par ta propre vie, je ne ferai pas une chose pareille. Entre parenthèses, petite parenthèse sur les Qumran, c'est le site de Qumran, les manuscrits de la mer morte. Il y a encore des débats selon les spécialistes, savoir s'il y avait vraiment une communauté entre guillemets monastique là-bas. En tout cas, on a trouvé deux exemplaires d'une règle écrite en hébreu du 1er siècle de notre ère, etc., hein, qui montre effectivement comme une forme de postulat, de noviciat, et puis des règles d'organisation de la communauté. Et on voit donc qu'il y avait une communauté de type monastique, c'est-à-dire de gens voués au célibat. Mais ce n'est pas un célibat à la manière de celui même de Jean-Baptiste, et encore moins celui de Jésus, qui initiera le thème des eunuques pour le royaume des cieux, et puis la vie monastique chrétienne spécifique. Hein, pour le royaume, ce n'est pas ça du tout. Puisqu'il y a un autre manuscrit de Qumran qui s'appelle le rouleau de la guerre, qui présente la guerre entre les fils de lumière et les fils des ténèbres. Et là, les fils de lumière, comme par hasard, c'est les gens de Qumran, hein, et les fils de ténèbres, c'est ceux qui tiennent le pouvoir à Jérusalem, qui sont considérés comme un sacerdoce illégitime et impie. Et donc, c'est une guerre. Et c'est parce qu'ils sont en état de guerre que ces gens-là sont célibataires. Non, pas dans la science. C'est pas une mystique du célibat pour le royaume des cieux. Hein. C'est un état de guerre. Ils sont comme des militaires en campagne. Donc, je reviens à l'histoire de David et Urias. Alors donc ça marche pas puisque l'autre connaît bien les règles de bienséance, de bonne morale. Il n'est pas question que j'aille être infidèle à mes amis qui sont eux au front. Je reste. Alors donc le roi trouve une autre solution. Il va lui dire prolonge encore un petit peu ton repos, etc. Hein, et puis il l'invite à nouveau chez lui. Il l'enivre pour que l'autre soit complètement rond et ne sache pas ce qu'il va faire. Et il y arrive en verset 13. Hein, il l'enivra. Cependant. Le soir, Urias sortit et alla se coucher à nouveau avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas chez lui. Ça ne marche pas. Tout enivré qu'il est, il garde encore ce réflexe de s'en tenir à ça. Alors là, le roi David ne sait plus quoi faire, plutôt si, mais il a une idée encore plus sombre, terrible. Il fait écrire une lettre, enfin, il écrit une lettre pour le chef de l'armée, pour Joab, et il la fait porter par Urias même. Urias porte sa propre condamnation à mort sans savoir que c'est ça qu'il porte. Dans cette lettre, il est écrit « Mettez Urias en première ligne, au plus fort de la mêlée, puis repliez-vous derrière lui, qu'il soit frappé et qu'il meure. » Comme ça, après, il sera mort au combat, hein, légion d'honneur posthume, etc. Et puis voilà, la femme pourra bien la consoler, donc on la prendra. Et Joab, à ce moment-là, qui est le chef, qui a reçu cet ordre du roi, donc Joab, c'est pas peut-être le détail, c'est pas que le roi a mis enceinte la femme de mais il sait que le roi a un problème avec Joab, avec Urias. Donc Joab obéit à la lettre à ce que le roi lui demande. Et en plus, quand Urias est mort, à la fin du verset 17, Joab envoya raconter à David tous les détails du combat. Et il dit ça au messager. Quand tu en auras fini de rapporter au roi tous les détails du combat, il se peut que le roi entre en fureur et te dise « Pourquoi vous êtes-vous tant approché de la ville en livrant bataille ?» C'est culotté quand même, parce qu'on peut imaginer que le roi David va feindre de s'emporter comme ça, mais même son général en chef, qui commence à comprendre que le roi a une idée derrière la tête, donc il veut plaire à son roi, il imagine... qui est ce petit scénario, il se peut que le roi entre en fureur. Voilà. Et alors, et tu lui diras, un peu plus loin au verset 21, donc s'il te dit tout ça, tu lui diras, ton serviteur Urias, Hittite est mort, même lui, non, oui, on a eu beaucoup de malheurs, et même lui, c'est bien triste, c'est comme ça. Et donc, c'est pas que il y a eu de la concupiscence, il n'y a pas qu'un adultère, il y a un viol avec abus d'autorité, mais il y a ensuite du mensonge, de la traîtrise, de la rouerie, on fait croire que si et que c'est pas ça. Et puis après, on feint d'être en deuil, hein, et il est mort. Alors, on va annoncer ça évidemment à David, David répond au messager, verset 25. Voici ce que tu diras à Joab, ne prends pas mal cette affaire. Voilà. Le roi et son général continuent à jouer ce jeu. Il est complice, le Joab, même s'il ne sait pas qu'encore une fois, l'histoire de la coucherie, n'empêche qu'il est pieds et poings liés à son droit. Hein. Ils sont tous les deux solidaires dans le but. Hein. Tu vas dire à Joab, ne prends pas cette affaire mal. C'est comme ça, ça arrive à la guerre de temps en temps. Il y a des désastres, c'est triste, c'est comme ça. C'est horrible d'imaginer que tout ça, c'est de la manigance. Hein, et tu réconforteras Joab. La femme d'Urias, apprenant que son mari était mort, le pleura, et très certainement, très sincèrement, parce qu'encore une fois, elle n'a jamais désiré, elle couche avec le roi, hein, ça n'est dit nulle part. Elle prend le deuil, et puis une fois que le deuil est passé, David l'envoya chercher pour la recueillir chez elle, chez lui. Elle devint sa femme, et lui donna un fils. Celui qui est... Voilà. Malheureusement, mais David avait ce que David venait de faire était mal aux yeux du Seigneur. Ce mal, c'est tout ça, et ça part, encore une fois, d'un abus d'autorité. Donc l'autorité, c'est dangereux. Il en faut. On ne peut pas se passer d'autorité. En tout groupe humain, même une simple famille, que ce n'est pas forcément le pater familias, mais il faut bien qu'il y ait des parents quand même. Ce n'est pas au petit dernier de faire la leçon dans la maison. C'est quand même les parents à parité, si on veut, l'homme et la femme, etc. Mais c'est, il faut une autorité. Et les groupes humains et les communautés religieuses, c'est ça aussi. Et on ne peut pas vivre sans, dans l'anarchie totale. Sinon, c'est la loi du plus fort. L'anarchie, ça n'existe pas, c'est la loi du plus fort. Donc, voilà. Alors, à ce moment-là, deuxième partie de l'histoire, qui est plus connue peut-être et qui est très touchante, parce que c'est l'invective du roi par le prophète Nathan, qui, bien sûr, on ne nous dit pas comment Nathan sait tout ça. Mais Nathan a dû être informé par le Seigneur, c'est ça, c'est une façon de... Il y a un raccourci, là. Nathan sait, parce qu'il est prophète, il sait ce qui s'est passé. Et il raconte cette petite parabole extraordinaire de l'homme avec la petite brebis. C'est touchant au possible. Et le pauvre n'avait rien qu'une brebis, toute petite. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui au milieu de ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, elle dormait dans ses bras. Elle était comme sa fille. C'est un texte extraordinaire, de beauté. Et puis tout de suite, voilà la finale cruelle, alors que l'autre a des centaines de brebis, mais il ne veut pas en perdre une, etc. Il prend la petite fille chérie de ce pauvre, et il la tue, il l'immole pour nourrir son ami qui passe. Alors David, qui n'a pas encore vu clairement de quoi il s'agissait, est tout à fait choqué par cette histoire, et il dit, voilà, il faut que cet homme mérite la mort. Et Nathan lui dit, verset 7, « Cet homme, c'est toi !» Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Et un peu plus loin, verset 9, « Pourquoi as-tu méprisé le Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé par l'épée Ourias le Hittite, et sa femme, tu l'as prise pour femme, lui, tu l'as fait périr par l'épée des fils d'Ammon. » Quand vous regardez ce verset 9, surtout la deuxième partie, après la question « Pourquoi as-tu fait cela ?», il y a une répétition, « Tu as frappé par l'épée Ourias, lui, tu l'as fait périr par l'épée, et sa ancêtre, sa femme, tu l'as prise pour femme. » Alors, c'est ce genre de découpage, on a ça souvent dans la Bible, il y a une forme de chiasme, de structure concentrique, il y a deux fois la même chose, donc ça insiste sur l'acte dangereux qui est dit, la grave, avoir tué Ourias, mais au centre, il y a aussi quelque chose d'important, tout ça parce que tu voulais prendre sa femme. Autrement dit, les choses sont remises à leur place. C'est d'abord la concupiscence de David, et puis ce viol qu'il a essayé, et pour se sauver la face, qu'il a fait tuer l'autre. Donc, tout est lié. Voilà. Et alors, bon, après, ça fait partie des happy ends qu'il y en a quelquefois dans la Bible, un peu surprenant parce qu'ils sont un peu rapides. Le verset 13, David dit à Nathan, « J'ai péché contre le Seigneur. » Et Nathan lui dit, le Seigneur a passé sur ton péché, tu ne mourras pas. » Donc, la contrition paraît un peu courte, et rapide. Bon, elle dure quand même le temps d'un psaume. Il y a tout un psaume, le psaume 50, 51, qui est le Miserere, qui est censé être, d'après l'inscription au début du psaume, la grande prière de demande de pardon que fait David à Dieu, parce qu'il se repent. Mais au moins, la leçon qu'on peut en tirer, et ça, c'est la leçon biblique, le pape François continuera à dire ça, c'est que la miséricorde de Dieu, elle est toujours présente à celui qui le lui demande. Ainsi, la demande est sincère, Dieu pardonne, il n'y a aucun péché qui n'est pas pardonné, sauf, on évoquait hier, le péché contre l'esprit, parce que si c'est péché contre l'esprit, ça veut dire nier l'existence d'une dimension spirituelle, donc on ne demande pas pardon dans ce cas-là, donc on ne peut pas entrer dans la démarche de pardon. Mais si on reconnaît qu'il y a une puissance, eh bien, on peut recevoir le pardon. Voilà, je passe au deuxième texte, parce que le temps file, et le texte aussi, alors là il est encore plus long, là, l'extrait que je vous ai choisi, ça concerne le prophète Élie. Vous voyez, on vient de voir une figure éminente de la Bible de l'Ancien Testament, le roi David, roi Messie, saint roi d'Israël, donc homme politique. Maintenant, je prends un prophète, mais un prophète qui joue aussi un rôle politique dans le sens qu'il corrige les erreurs des rois locaux. Le prophète Élie. Élie, dont le nom est tout un programme, puisqu'il s'appelle Eliyahu, ça veut dire « Mon Dieu, c'est Yahvé ». Autrement dit, c'est le champion de Dieu. Il veut défendre l'unicité de Dieu, le seul vrai Dieu, alors qu'il est entouré de gens qui croient aux faux dieux, les Baals, les dieux païens. Alors, ça a commencé parce que le roi Akab, qui est son contemporain en Israël, au royaume du Nord, le roi Akab a pris pour femme une païenne, originaire de Tyr et Sidon, Jézabel, dont le nom réapparaîtra dans l'Apocalypse, Et cette femme, est donc, comme elle est comme une païenne, elle a des prêtres païens, des prêtres de Baal, et elle veut chez elle à des autels et des temples aux dieux païens. Et le roi Akab accepte, autrement dit, il abandonne un peu le Seigneur d'Israël. Donc, c'est la première partie. Ce récit que j'ai mis est pourtant un raccourci, hein. Il y a trois épisodes. Il y a la fin du chapitre 17, vous voyez, au bas de la page 2, jusque les dernières lignes, c'est le début du chapitre 18. Là, c'est l'histoire de l'annonce de la sécheresse. Puis vient du bas de la page 2, début du chapitre 18, jusqu'au milieu du. Non, pas au milieu. Si, si, oui, jusqu'au milieu de la page 3, hein, verset 46. Donc c'est le fameux sacrifice du Mont Carmel, où il y a une sorte de joute théologique avec une bête un gros taureau à faire flamber. Donc c'est une joute avec du réel, du concret, entre les prophètes, les prêtres de Baal et le roi, le prophète Élie, qui est le seul pour défendre le Seigneur. Et puis, troisième épisode, c'est le début du chapitre 19, que j'ai mis, donc la deuxième partie de la page 3. Là, c'est la menace que fait peser la reine Jézabel sur Akab quand elle apprend ce qui s'est passé, et que Élie a remporté la victoire sur les prêtres de Baal. Donc, elle veut la peau du prophète de Dieu. Et c'est ce qui va l'amener à arriver à la montagne de l'Horeb, où Dieu avait parlé à Moïse autrefois, donc une sorte de pèlerinage aux sources, mais à la suite d'une histoire assez compliquée. Alors, ce que je veux montrer dans ce passage-là, c'est que, après avoir vu une figure d'homme politique qui est censé être fidèle à Dieu, représenter Dieu même pour son peuple, et qui est capable de commettre des horreurs, éventuellement de se repentir après, mais de commettre des horreurs et de les accumuler l'une après l'autre, hein, eh bien, le prophète Élie, qu'on prend souvent pour un saint prophète de la sainteté de Dieu, il ressemble un petit peu à certains de nos fanatiques d'aujourd'hui, quelles que soient les religions, hein, en question. C'est-à-dire qu'il veut défendre les droits de Dieu envers et contre tout, même envers Dieu, hein, c'est-à-dire que sans demander l'avis à Dieu. Et je sais que j'ai dit ça un jour devant le père Schenker, grand bibliste, grand prophète, et il n'était pas très d'accord avec moi. Mais il n'a pas eu l'occasion de m'expliquer en quoi, à son avis, je déformais la figure du prophète Élie. Moi, je dis, je m'en tiens au texte. Regardons, verset 17.1. Le prophète Élie dit au roi Akab, le roi païen, « Par le Seigneur qui est vivant, par le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, pendant plusieurs années, il n'y aura pas de rosée ni de pluie, à moins que Jean donne l'ordre. » Eh bien, vous pouvez chercher dans les versets qui précèdent, vous ne verrez nulle part un ordre de Dieu disant à Élie, « Va dire ça au roi, etc. Je veux qu'il... » Donc, on a l'impression que c'est de sa propre initiative que le prophète dit, « Par le Seigneur qui est vivant, hein, il n'y aura plus de pluie, jusqu'à ce que je dis stop. » Et finalement, le stop viendra de Dieu ensuite. Hein. Mais... Donc Dieu laisse faire, bien sûr. Dieu n'arrête pas toujours le bras du méchant, ni même du juste qui se croit plus juste que Dieu et qui veut faire. Il n'arrête pas. Donc les choses se font, il laisse faire Dieu. Et c'est après que la parole lui est adressée. Regardez au verset 2. La parole du Seigneur lui fut adressée, mais pas avant. Donc c'est de sa propre initiative que Élie, champion de Dieu, a dit « Le Seigneur le veut, il n'y aura pas de pluie pendant des années. » Et comme le Dieu, en quelque sorte, si je puis dire, se plie à la bonne volonté ou à la volonté imparfaite de cet homme, eh bien, Dieu va faire en sorte qu'il n'y ait pas de pluie. Hein. Et puisque c'est ça, il va lui dire au verset 3, « Va-t'en au torrent du Kérit, hein, pour aller boire au torrent, tant qu'il y a de l'eau, c'est entendu. Hein. J'ordonne à des corbeaux de t'apporter la nourriture. » Autrement dit, je pense à toi, je ne t'oublie pas, hein, je ne te jette pas au loin. Hein. Et le prophète obéit, bien sûr, là, à ce que le Seigneur lui a dit, verset 5. Hein, le prophète fit ce que le Seigneur lui avait dit. Mais au verset 1, il n'est pas dit qu'il fait ce que le Seigneur lui a dit. Et il, de lui-même, il dit, par le Seigneur, qui est ça, tant que j'en donne l'ordre, il n'y aura pas de pluie. Mais le Seigneur n'a rien dit de tout ça. Et puis, au bout d'un certain temps, verset 7, il ne tombait plus une goutte de pluie dans tout le pays. Et même le torrent où buvait le prophète a fini par être à sec. Dieu l'a pris au sérieux, puisque tu m'as embarqué dans ton affaire, ben oui, ben voilà, ben il n'y aura pas de pluie, et il n'y en aura pas non plus pour toi. Alors, verset 8, « Alors la parole du Seigneur lui fut adressée à nouveau, « Lève-toi, va à Sarepta, dans le pays de Sidon, tu y habiteras, et là, il y a une veuve que j'ai chargée de te nourrir. » Donc, et c'est l'histoire de la veuve de Sarepta. En revoyant le texte hébreu ce matin, je suis frappé, Sarepta en hébreu, c'est dit Tsarfata, c'est la France. Tsarfat, c'est la France. Donc, il envoie le prophète en France, peut-être dans la France laïque, je ne sais pas, et d'aujourd'hui, et très multiculturelle. Donc, il envoie ce prophète, et le prophète l'a obéi, hein, et puis il va, et puis il rencontre cette veuve. Alors, je vous ai mis le dialogue avec la veuve en partie, en grand caractère, j'insiste pas, mais il demande à cette veuve, est-ce que tu peux me donner, pas s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner, il lui dit, donne-moi, hein, il est un peu autoritaire, hein. Il se prend au sérieux, hein. Veux-tu me puiser avec ta cruche, un peu d'eau, apporte-moi aussi un morceau de pain, puis la pauvre femme dit, oui, j'ai que ça, j'ai très peu de farine, j'ai de quoi faire un petit bout de pain, pour une petite galette pour moi et mon fils, puis après on va mourir, hein, etc. Alors à ce moment-là, il s'adoucit, Élie, et lui dit au verset 13, « N'aie pas peur, fais ce que tu as décidé, mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. » Puis ensuite, voilà ce que dit le Seigneur, verset 14. « Ainsi parle le Seigneur, jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra. » On l'a même traduit de façon poétique avec un point et une inversion des termes dans la langue française pour faire poétique. Jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. Et la pluie, vous voyez, elle va arriver au début du chapitre 18, au bas de la page. Hein, la parole du Seigneur fut adressée à Élie. Va voir Akab, je vais envoyer la pluie. Donc Dieu, toujours, est lié en quelque sorte par son prophète qui. C'est un peu comme dans notre église aujourd'hui, s'il y a des ministres, quel que soit leur grade, je veux dire, qui font des choses, qui disent des choses de travers, de temps en temps, ben Dieu laisse faire les choses, et il ne va pas arrêter tout de suite avec son bras. La pluie va revenir enfin, après avoir été supprimée pendant des jours. Donc, et Élie va expliquer à ce moment-là au roi que tout ça, c'est sa faute, parce que ce roi, c'est la maison de ton père, c'est le haut de ma page 3, hein, que vous avez abandonné les commandements du Seigneur. Vous avez suivi les Baals. Et là, on arrive à la deuxième étape de l'histoire d'Élie, c'est le fameux sacrifice, le combat des chefs, on pourrait dire, le sacrifice du Mont Carmel. Hein, d'un côté, 450 prophètes de Baal, et de l'autre côté, un seul prophète de Dieu, du Dieu d'Israël, c'est Élie. Et puis, vous savez bien ce qui va se passer. Hein, c'est une sorte d'ordalie. Le feu va s'emparer du taureau d'Élie, alors qu'il est hyper mouillé, parce qu'on rajoute de l'eau autour. C'est un miracle. Alors que les autres ont eu beau se taillader, crier, implorer toute la journée, rien ne se passe sur le taureau des prophètes de Baal. Alors, Élie se moque même au verset 27, hein, en disant « Mais criez plus fort, c'est un dieu !» Il a des soucis, il a des affaires, il est en voyage, il dort peut-être, mais il va se réveiller. Donc, allez-y. Et puis, ça ne marche pas, et c'est bien sûr Élie qui va l'emporter. Alors, regardez le morceau central de la page 3, où au milieu, le prophète Élie dit, j'ai mis en grand caractère, et j'ai même mis des caractères gras sur une phrase, « Seigneur, Dieu d'Abraham et d'Isaac et d'Israël, on saura aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai accompli toutes ces choses sur ton ordre. » Oui, je veux bien, mais ça a commencé, l'ordre de Dieu, on l'attend toujours, hein, au début du verset 17.1. On a un peu l'impression qu'il a embarqué, qu'il a pris en otage son Dieu. Hein, mais ensuite, il essaie de suivre le Seigneur. Alors, je ne veux pas dénigrer la figure d'Élie, c'est une grande figure, mais elle a aussi ses limites, comme le roi David a ses limites. Hein, elle a ses limites, il a beau être prophète de Dieu, et parfois, il prend ses désirs pour la volonté de Dieu. Hein, « J'ai accompli toutes ces choses sur ton ordre. » Et ça va continuer, même si c'est très beau. Enfin, le peuple va dire « Ah, c'est le Seigneur, le Dieu d'Israël, c'est Yahvé, entre guillemets, qui est le vrai Dieu, etc. » Très bien. Et puis après, il y a la pluie qui va venir. Mais regardez entre les deux, versets 39 et 40. Verset 39. Tout le peuple dit, c'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. Verset 40. Élie leur dit alors, saisissez les prophètes de Baal, que pas un seul n'en réchappe. Hein? Ils les saisirent. Ensuite, Élie lui-même les fit descendre au ravin du Kishon, et là, il les égorgea. Hein? On a l'impression qu'on lui passe les 450 prophètes l'un après l'autre, et que c'est lui qui les égorge. Nulle part Dieu lui a dit ça. Hein? Nulle part Dieu lui a dit de saisir les prophètes Baal et de les égorger hein, de sa propre main. Donc, il en rajoute. Hein? Donc, ce qui se passe de nos jours dans certains pays, et dans des pays très variés, avec des religions très variées aussi, c'est pas que l'islam, hein? Ça peut être l'hindouisme ou même le bouddhisme. J'ai vu un film terrible sur un moine bouddhiste ce pays qui a changé de... Birmanie, hein, ouais, qui a eu une violence contre les musulmans, mais c'est atroce, atroce. Hein, l'affaire des Rohingyas, etc. Et c'est un petit Bouddha, tout, qu'on dirait un bébé, cadom, sourit comme ça, mais il dit des choses horribles. Il dit, allez, massacrez-les, c'est le bonheur du Seigneur. Donc, voilà. On a des gens qui se prennent pour plus prophètes qu'ils le sont. Voilà. Et puis, la dernière partie, pour Élie, c'est le chapitre 19. Évidemment, tout ce qui s'est passé, ça ne plaît pas à la reine Jézabel, parce que c'est ses amis, les 450 prophètes qu'il a égorgés de sa propre main. Eh bien, donc Jézabel, quand elle apprend ce qui s'est passé, verset 2, elle envoya un messager dire à Élie, « Je te jure, c'est ça que ça veut dire, que les dieux amènent le malheur sur moi, et pire encore, si je ne fais pas ce que tu as fait toi-même à mes prophètes, hein, je te jure que j'aurai ta peau. » C'est ça qu'elle lui dit en clair. « Tu as intérêt à courir vite. » Alors, verset 3, là, j'ai indiqué « Tob maudit ». C'est que le texte que je vous ai donné, c'est le texte de la Tob. C'est pratique parce qu'on l'a sur l'ordinateur. Donc je peux, hein. Mais de temps en temps, il faut... Et j'aurais dû le corriger aussi une autre fois. Je reviendrai en arrière. « Tob maudit ». Et texte hébreu, « Alors Élie vit, il se leva et partit pour sa vie. » Pour sauver sa vie, comprenons, mais en hébreu, pour sa vie. Et le grec ne dit pas « Alors Élie vit », mais « Alors Élie eut peur ». C'est tout simplement parce qu'il y a deux racines en hébreu qui se ressemblent, la racine du verbe voir et la racine du verbe avoir peur. Hein, et alors Élie vit et il se leva. Qu'est-ce qu'il a vu? C'est un peu comme ceux qui vont au tombeau et il vit et il crut. Hein, enfin, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'il n'y avait plus rien à voir, hein, surtout, hein, qu'il fallait croire maintenant, c'est ça. Hein, donc là, Élie vit. Il vit le danger qui le menaçait, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, l'interprétation par l'autre racine, Élie eut peur, et il se leva et partit, se comprend. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il arrivait, c'est à la fin du récit, à l'Horeb, là où Dieu avait autrefois rencontré Moïse. Alors on peut se dire, c'est beau, Élie et Moïse se rejoignent, comme dans la Transfiguration d'ailleurs, hein, et Élie va faire un pèlerinage aux sources. Il dit, tiens, je vais faire une petite retraite au mont Horeb pour m'imprégner l'esprit de Moïse. Pas du tout. Ça se passe, ces affaires-là, au royaume du Nord, Israël. Hein, et comme la reine lui dit, t'as intérêt à courir vite parce que je lance ma police à tes trousses, ben l'autre, il descend le plus vite possible au sud. Et c'est, si je puis dire, par hasard, c'est un hasard providentiel, mais qu'il arrive à l'Horeb. Hein, il n'a pas l'intention d'aller faire une retraite à ce moment-là. Il court pour sauver sa peau. Et on sait bien que la peur donne des ailes. Hein, donc, il faut pas. Et voilà. Mais c'est Dieu qui va transformer sa retraite, qui est du genre retraite de Bérézina, hein, en une retraite spirituelle au monastère de Chalais. Mais au départ, c'est tout simplement, il court pour sauver sa peau. Alors, pour terminer avec Élie, je voudrais revenir sur deux, trois passages où il y a des mots intéressants et le verbe lever. Alors revenez en arrière, page 2, au verset 9. Dieu dit à Élie, lève-toi, koum, va à Sarepta, je dis va en France, l'air Tsarta en hébreu, va en France, dans le pays de Sidon, tu habiteras là, lève-toi. Il annonce à Élie que puisqu'il va y avoir la panique, la sécheresse, etc., eh bien moi je te protège, une veuve en païenne va s'occuper de toi, lève-toi. Résultat, le prophète partit pour Sarepta, verset 10. Mais là, j'aurais dû corriger l'hébreu, le grec, pardon, excusez-moi, corriger le texte de la Tob, ça c'est le texte de la Tob, parce que là aussi, on n'a pas le prophète Élie parti pour Sarepta, on a Alors, il se leva et partit pour Sarepta. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est pour vous montrer qu'il y a 3 ou 4 passages seulement dans ces récits où il y a le verbe « se lever » et l'impératif « lève-toi ». Et il y a des fois où ça marche, hein, et il y a des fois où ça ne marche pas. Et c'est intéressant de voir pourquoi. Là, il y a panique parce qu'il y a la sécheresse qui l'a commandé, Élie entre parenthèses, hein, bon. Très sécheresse. Et Élie est pris à son propre piège. Mais Dieu veut le sauver, donc il lui dit « Lève-toi, va ailleurs, là, à Sarepta, il y a une veuve qui va s'occuper de toi. » Résultat, l'autre, il est très content, donc il se lève et il part pour Sarepta. Et il va être nourri par la femme, etc. Maintenant, vous revenez à la page 3, et dans le chapitre 19, vous revenez à partir du verset 3 que j'ai dit. Quand Élie entend ce que la reine Jézabel lui a fait savoir, elle lui a envoyé un SMS, je ne sais pas quoi, t'as intérêt à courir vite, parce que, encore une fois, j'aurai ta peau. Élie vit le danger, il eut peur, et la peur donne des ailes, il se leva et partit pour sauver sa vie. Il ne part pas pour faire une retraite au sens spirituel, hein. Il part presque par égoïsme, on dirait, mais un égoïsme naturel, un instinct de survie, il veut sauver sa peau. L'hébreu dit son âme, mais c'est ça, oui, sa peau. Et puis il arrive à Beersheba. Et puis là, il marche encore, et puis il est lassé, il est fatigué, il n'en peut plus. Et il dit au Seigneur, reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères. Il demande la mort. C'est une solution compréhensible, mais un peu de facilité. Saint Paul l'a expérimenté dans une de ses lettres, il dit, j'en peux plus, j'aimerais tellement, ce serait tellement mieux d'être au ciel avec le Seigneur déjà. Et puis la petite Thérèse aussi, et puis des tas d'autres saints l'ont vécu. À un moment, on a envie de dire, voilà, ben seulement le Dieu compte encore sur toi, donc il faut peut-être aller plus loin. Puis, donc, verset 5, il s'étendit sous le buisson et il s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. À nouveau le verbe se lever. Il regarda, il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea et il but. Puis se rendormit. Donc l'ange doit revenir à la rescousse une seconde fois. C'est comme pour le petit Samuel. Hein. Dieu revient à la chaîne. Il ne vous lâche pas. L'ange du Seigneur le toucha et lui dit, lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. Donc il lui fait comprendre cette fois-ci qu'il a encore un bon bout de chemin à faire. Verset 8, Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Quelle est la différence entre les deux repas que Élie vient faire? Le premier, l'ange lui avait dit « Lève-toi et mange ». Et vous pouvez lire le verset 6. Qu'est-ce qu'a fait Élie? Il a vu la cruche, il a vu la galette, il a mangé et il a bu. Puis après, il a fait l'assiette parce qu'il faut digérer. Il se rendormit, mais il ne s'est pas levé. Il a obéi qu'à moitié. Et il a obéi à la partie la plus facile. Mange, mange et bois. Et il ne s'est pas levé. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Pour moi, c'est le mouvement de la procession de communion aussi. Hein. Il faut faire une démarche, on veut, on se lève. Une seconde fois, l'ange le touche et lui dit, lève-toi et mange, les mêmes paroles. Mais il ajoute, tu as encore beaucoup de chemin à faire, tu n'es pas arrivé à la fin, ce n'est pas l'heure de mourir. Hein. Donc à ce moment-là, Élie comprend un peu mieux. Il se lève avant de manger et boire. Et du coup, cette nourriture, eh bien, elle le fortifie. Quand on dit qu'il faut couper l'Eucharistie, la bonne doctrine, on ne peut pas recevoir la Sainte Communion, sinon que si on est en état de grâce. Qu'est-ce que c'est que l'état de grâce? Ce n'est pas d'être pur et sans péché, on est tous des pécheurs. Hein. Mais c'est l'Eucharistie, ça ne sert à rien, si je puis dire, si on n'est pas en état de le recevoir, si on n'est pas prêt. Donc la démarche de se lever, même simplement physiquement de son siège, pour aller, c'est une manière de dire qu'intérieurement, oui, on se lève, on fait effort d'aller recevoir cette nourriture, alors là, elle peut porter des fruits. Sinon, on mangera et on boira, et puis on se rendormira. Voilà. Voilà ces deux récits qui nous montrent comment un roi ou un prophète de Dieu, un champion de Dieu, peuvent être à la fois fidèles à Dieu et un peu outrepasser leurs droits, leurs prérogatives. Ils se mettent un peu à la place de Dieu, finalement, hein. Et gérer le droit de vie, de mort des uns et des autres, faux prophètes ou mari gênant, etc. Je passe maintenant, mais c'est plus rapide parce que ce sont des textes que vous connaissez mieux, au récit évangélique, le lavement des pieds. et puis le petit texte de saint Luc. Alors, du lavement des pieds, ce que je veux relever simplement, c'est d'abord l'incompréhension de Pierre, là aussi toujours. Il n'y a pas que David, il n'y a pas qu'Élie, il y a Pierre aussi qui ne comprend pas ce que Jésus veut faire. Et Jésus, Pierre lui dit au verset 7, 6, pardon, « Toi, Seigneur, tu vas me laver les pieds ?» Et Jésus lui répond, « Ce que je veux faire, tu ne peux pas comprendre maintenant. Mais plus tard, tu comprendras, plus tard. » Mais Pierre, c'est un primaire, il est impatient. Il veut comprendre, il croit qu'il a compris. Donc, il n'est pas question, Seigneur. Ce n'est pas toi qui vas me laver les pieds, sous-entendu. Moi, je suis ton subalterne, je suis ton disciple, tu es le maître. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas le maître qui lave les pieds de ses disciples. Ça ne marche pas. Pas question, jamais. Alors Jésus le prend au pied de la lettre, lui dit, si tu veux, je ne te lave pas, si tu ne veux pas, c'est fini entre nous. Tu n'auras pas de part avec moi. Ça ne veut pas simplement dire maintenant. Il y a une formule un peu eschatologique là-dedans. C'est comme dans le psaume 15, « Seigneur, tu es mon partage et ma coupe, ma part d'héritage. » Tu es ma part d'héritage, donc c'est fini. Le royaume dans lequel je veux vous emmener, c'est fini pour toi, parce que tu n'as plus rien à faire avec moi. Alors là, Pierre, du coup, il réagit bien sûr. Très bien, d'accord, donc d'accord. Mais pas seulement les pieds, alors, mais aussi les mains et la tête. Là, il n'a rien compris. Il comprend pas la symbolique. Et Jésus lui répond, quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. Alors, certains manuscrits enlèvent le « sinon les pieds » parce qu'ils trouvent que c'est compliqué. Mais en fait, on peut comprendre la restriction. On est à la veille, on est dans l'approche de la fête de Pâques chez les Juifs. Et donc, les pèlerins, quand ils viennent à Jérusalem, prennent un bain rituel pour... Donc, ils sont propres. Simplement, comme après, ils ne peuvent pas voler ou sautiller comme des moineaux ou je ne sais quoi, ils sont bien obligés de mettre les pieds dans la poussière. Donc, pour rentrer dans la maison, il faudra à nouveau se laver les pieds. Et donc le lavement des pieds garde son usage, même si on a fait la purification rituelle. Et Jésus ensuite reprend son vêtement et va expliquer ce qu'il a fait. C'est le verset 13 et suivant. « Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, là les mots sont à l'envers, mais c'est même ça. C'est aussi sur truc concentrique. Je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Vous devez, le verbe devoir n'est pas très fréquent chez Jean. Il y a deux ou trois emplois ici et puis dans la première lettre de Jean. Nous devons donner notre vie pour nos frères, comme Jésus a donné sa vie pour nous. C'est le même devoir moral, on peut dire, mais qui n'est pas que moral, d'une morale extérieure. C'est l'imitation de Jésus, c'est l'imitation intérieure, c'est pas du copier-coller, de quelque chose d'extérieur. Non, c'est la même intensité, le même. C'est un exemple que je vous ai donné. Quand nous donnons un exemple, c'est comme quand nous donnons une leçon. C'est qu'on se place au-dessus des autres et on veut. Jésus ne se place pas au-dessus des autres pour donner un exemple, ni le bon exemple. Simplement, il montre, c'est ça que ça veut dire l'exemple. Il montre comment on va vers le Père. Comment on va vers le Père ? On y va en prenant la place du serviteur. Et donc, un serviteur n'étant pas plus grand que son maître, et un envoyé, en grec, un apôtre, un apostolos, pas plus grand que celui qui l'envoie, eh bien, vous devez faire comme moi, et si vous le savez, et surtout si vous le faites, ça ne suffit pas de le savoir, vous serez heureux. Voilà. Donc, une promesse, une béatitude, une promesse de bonheur pour ceux qui font comme Jésus. Alors, bien sûr, ça bouleverse tous nos schémas sur autorité, pouvoir, parce que Jésus met au centre le service, humble, je crois. Je pense que cet exemple du lavement des pieds est un exemple d'humilité aussi, et j'insiste là-dessus parce que, très curieusement, il y a eu il y a quelques années une femme de tradition protestante, mais qui est, comment on appelle ça, adventiste du septième jour. C'est un peu particulier comme même histoire, qui a fait sa thèse à Genève et qui a publié sa thèse chez Laborettines sur le lavement des pieds. C'est un très gros bouquin, très riche. Il y a beaucoup de choses sur le lavement des pieds parce que j'ai appris que pour les adventistes du septième jour, c'était un rite très important, le lavement des pieds. Mais elle dit de manière un peu autoritaire, affirmative, le lavement des pieds, c'est ci, c'est ça, ce n'est pas ça. Et elle dit, ce n'est pas un exemple d'humilité. Ah bon ? Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je fais ça, je trouve que c'est... Non, parce qu'on a, si vous voulez, on a des schémas, les exégètes ont des schémas. La passion chez les synoptiques, c'est le serviteur souffrant, c'est le Jésus qui est humilié, etc. Jean, comme c'est la glorification déjà, c'est un Jésus impassible et qui dit, oui, il y a quand même le geste du lavement des pieds, hein, à la place même de l'Eucharistie. Hein. Donc, il y a ce, je crois que c'est un exemple d'humilité. Et l'humilité étant la condition du serviteur qui veut entrer dans le royaume, c'est la seule porte d'entrée. Voilà. Et si je vous ai mis, pour terminer, les quelques lignes de ce petit récit de Luc, c'est parce qu'il, c'est comme, si on prenait une fable de La Fontaine, c'est comme la morale après la fable, hein, c'est la conclusion presque logique de ce récit de Jean, hein, et ça se passe, c'est pas n'importe où ces versets. Regardez, c'est au chapitre 22 de Luc. Donc c'est le récit qui commence par l'institution de l'Eucharistie. Je l'indique hein, au tout début. C'est juste avant, juste après le récit de l'institution de l'Eucharistie. Jésus vient de dire, ceci est mon pain. Donc l'Eucharistie, et à ce moment-là, donc le moment le plus solennel, on peut dire, du repas, ben, les disciples commencent à se quereller entre eux pour savoir lequel est le plus grand. C'est quand même mal choisi comme moment pour ça. Alors Jésus leur rapporte, les rois des nations les commandent en maître, ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. C'est extraordinaire ce texte. Alors, il y a des formules un peu équivalentes chez saint Marc. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Mais ce passage propre à Luc, juste après le récit de l'institution de l'Eucharistie, là où Jean mettrait le lavant des pieds, c'est extraordinaire. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Alors, puisque je fais le rapprochement entre ces deux évangiles, Jean et Luc, ils se posent des questions. Un certain nombre de questions que beaucoup de commentateurs, je vois dans les commentaires, élus, font comme si les questions ne se posaient pas. Vous savez que les trois synoptiques ne sont pas des copier-coller, chacun a sa physionomie et sa théologie et sa qualité littéraire, mais ça suit en gros un même schéma. C'est pour ça qu'on les appelle synoptiques, on peut les mettre en parallèle. Jean est très différent. Hein, il n'y a que de très rares passages qui sont parallèles entre Jean et les synoptiques. Jean suit sa voie propre. Et en particulier, alors qu'il parle si fortement de l'Eucharistie à la fin du chapitre 6, il ne raconte pas le récit d'institution que les trois synoptiques rapportent au dernier repas, mais à la place, il met le récit du lavement des pieds. Alors, inévitablement, on peut se poser la question, même si elle a un petit côté un peu naïf et qu'il ne faut pas sombrer dans la naïveté totalement, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ce dernier repas? Est-ce qu'il y a eu l'institution de l'Eucharistie? Mais là, pourquoi Jean n'en parle pas? Où est-ce qu'il y a eu le lavement des pieds? Mais pourquoi les synoptiques n'en parlent pas? Hein, on peut se dire, et on n'a pas la réponse. Il y a celui qui dirait, voilà la réponse, il se trompe et il trompe les autres, parce qu'on n'a pas la réponse, on ne sait pas dans quel ordre, c'est la poule et l'œuf qui a commencé, on ne sait pas. Par exemple, pour le récit de lavement des pieds, on peut dire deux choses. On peut dire, oui, Jésus, la veille de sa passion, a lavé les pieds de ses disciples, un geste extraordinaire qui anticipe sa passion, le don de sa vie pour lui, il se donne au service de ses frères, etc. Et ce geste qui a dû quand même frapper les premiers disciples aurait été rapporté de vive voix, et les autres évangiles soit n'auraient pas osé, peut-être Marc le premier, le rapporter, tellement c'était surprenant, soit, comme Luc, aurait choisi de le résumer par trois phrases. La phrase qu'on a, hein, « Moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Donc, Luc, je ne dis pas que Luc est écrit après Jean, attention, c'est pas ça. Je crois que Jean est le dernier évangile écrit. Hein. Mais Jean a des traditions anciennes aussi. Donc, peut-être Jean aurait gardé la tradition de ce geste posé par Jésus, et les autres auraient fait l'impasse pas complètement dessus, auraient préféré résumer en quelques phrases « Le Fils de l'homme est venu donner sa vie en rançon pour la multitude » ou « Là, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Et puis c'est tout. Mais on peut poser la question à l'inverse aussi, c'est-à-dire, est-ce qu'on n'aurait pas d'abord la tradition synoptique avec des paroles sur Jésus qui se met au service, et Jean qui est un créatif aussi, comme avec l'allégorie de la vigne, avec les noces de Cana, texte extraordinaire, mais unique en son genre, hein, qui n'est il n'y a pas un seul mot de ça chez les synoptiques, c'est quand même très étrange. Est-ce que Jean n'a pas ajouté de son cul ce geste, hein, comme si c'était la plus belle illustration narrative des mots de Luc, là, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Alors certains vont être choqués si je dis ça en disant, mais non, Saint Jean, d'abord, c'est un disciple de la première heure, il doit savoir de quoi il parle, lui, il l'a vu en direct. Oui, méfions-nous de ces approches un peu trop myope. Il faut prendre un peu de recul comme dans les textes. On n'a pas la solution, on ne sait pas. Mais c'est vrai que personnellement, j'aime penser que Jésus a posé ce geste vraiment, hein, et que la tradition synoptique a choisi de le résumer simplement en quelques mots sur Jésus serviteur. À l'inverse, ils ont mis en valeur le geste eucharistique que Jean ne rapporte pas. Je m'arrête là parce que les deux prières du pape, c'est pour votre méditation personnelle après, si ça vous intéresse, mais. Et je suis prêt à entendre vos questions, vos remarques.